François Bernard.
Bonjour. Sur Radio Alternante, maintenant 15 minutes consacrées à l'économie sociale et solidaire, ESS. Qu'est-ce que c'est ? L'économie sociale et solidaire rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performance économique et utilité sociale. Des structures qui sont un acteur devenu important dans l'économie française, on en compte 200 000, qui emploient plus de 2 millions de salariés. Voilà pour le cadre. On a rencontré Jean-Paul Raillard, président d'une de ces structures. Il nous dit d'abord comment est né ce réseau baptisé Envie.
D'abord Envie, c'est 42 ans d'existence, naissance en 1984 à Strasbourg, d'une idée qui était autour de l'insertion. Par un éducateur donc qui avait en charge quelques adolescents un peu dissipés, on va le dire comme ça, et qui voulait les mettre au boulot. Et puis, comme il était assez copain avec les gens de Darty, et assez copain aussi avec la municipalité également, il a trouvé donc la combinaison qui fait que on s'est mis à réparer des machines à laver, des lave-vaisselle. Il n'y en avait pas encore beaucoup à l'époque, mais beaucoup des lave-linges ou du froid, etc.
Envie favorise donc la seconde vie des objets en panne. Il les récupère, les répare, les revend pour financer l'emploi de ses réparateurs. Et l'on sait qu'à la première panne, les appareils finissent souvent à la décharge. Alors, mieux vaut les recycler. Et en matière de recyclage, les opportunités sont nombreuses.
Tiens, on a vu qu'il y avait un gaspillage énorme, justement, que ce soit dans les cliniques, les hôpitaux privés ou publics, les EHPAD, etc., de matériel qui, quelquefois, servait 3 mois, 4 mois, etc., qui était jeté. Et on a lancé on s'est lancé un peu dans l'aventure. On s'est lancé il y a 10 ans, comme j'ai dit, à Angers. Donc, c'est une idée de l'Ouest également. Nous, à Nantes, on s'y est lancé donc un petit peu plus tard.
Reconditionnement, réparation et revente. Je rappelle qu'un des principes de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il ne génère pas de profit personnel. On paye des salaires, on loue des locaux. Si l'on fait des bénéfices, c'est pour faire fonctionner l'entreprise. Une entreprise qui s'inscrit désormais dans une logique commerciale, celle d'un nouveau mode de consommation que les réglementations encouragent.
Il y a une deuxième partie qui est née, justement, la construction de ce qu'on appelle les filières REP, de responsabilité élargie des producteurs. Ça veut dire que le producteur lui-même du matériel est responsable jusqu'à la fin de vie du produit. C'est pour ça que vous payez une éco-contribution quand vous achetez donc un produit neuf. Et lorsqu'il y a eu cette constitution, donc en 2006, là, un petit peu avant, on s'était mis à penser, il fallait être présent justement dans cette chaîne, toute cette chaîne de valeur, comme on dit maintenant, c'est-à-dire depuis la collecte des appareils chez les particuliers ou dans les entreprises jusqu'à la réparation, le recyclage, etc. Donc on a une grosse activité de transport, de logistique.
Un autre principe fondateur de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'elle doit avoir une utilité publique. Alors ici, nous avons création d'emplois, recyclage d'objets destinés à la déchetterie, revente à bas coût de produits réparés, c'est d'utilité publique. Jean-Paul Raillard ajoute une autre mission, plus éducative.
Puis on a une quatrième activité auquel je tiens beaucoup, c'est une activité de sensibilisation, un peu comme fait aussi les écosolis, c'est-à-dire sensibiliser le public à tout ce qui est justement déchets et à la façon dont on traite les déchets. Je trouve que c'est très parlant d'emmener une classe d'élèves de CM2 par exemple ou de 6e, de les emmener sur un lieu de stockage et un lieu de traitement donc des déchets pour savoir que le produit qu'ils jettent comme ça, ils pensent que c'est anodin, ça jette de tous, mais ce que ça devient aussi, c'est vraiment important.
Considérant l'énorme quantité d'objets qui est produite, le recyclage devient de plus en plus difficile dans une catégorie particulièrement, les vêtements. Écoutez ce qu'en dit Elisabeth Foscolo des Ecosolis, une association spécialisée elle aussi dans le réemploi.
C'est une part très importante, en tout cas des apports en ressourcerie et en recyclerie. C'est une part importante, ça l'était jusqu'alors, du chiffre d'affaires aussi de ces acteurs-là. Sauf que là maintenant, ils sont noyés sous des quantités astronomiques de fringues absolument pas réemployables, pas recyclables. Enfin voilà, je pense que là, le principal rôle sur la sensibilisation et le changement de comportement des acteurs du réemploi, il y a des acteurs aujourd'hui en Loire-Atlantique qui ont décidé de refuser les vêtements Shein, par exemple, parce que c'est une façon d'expliquer aux gens en fait pourquoi il ne faut pas aller sur ce mode de consommation-là. Voilà, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, je dis que c'est des questions qui se posent dans les structures. Et donc ça génère évidemment beaucoup plus de travail pour les acteurs avec des taux de réemploi qui sont moindres, c'est-à-dire ils collectent plus et ils revendent pas plus, voire moins. Évidemment, avant, il y avait encore un marché, il y a 3-4 ans de ça, encore un marché africain. Aujourd'hui, on le comprend assez bien. En Afrique non plus, en fait, ils ne veulent pas du textile réemployé français qui coûte plus cher et qui est finalement du Shein aussi que d'acheter directement Shein, en fait. C'est d'abord, voilà, une crise des débouchés.
Notre société d'abondance qui n'arrive pas à exporter ses surplus, l'heure est grave et on comprend pourquoi. Mais l'absence de débouchés n'est pas seule responsable des difficultés. La concurrence est aussi sérieuse avec les sites de revente en ligne. Écoutons Jean-Paul Raillard.
On n'a pas parlé de Vinted aussi, des choses comme ça. C'est-à-dire que ces marchés, hein, y a un marché parallèle aussi qui s'est fait donc également. Auparavant, on avait des dons, hein, bien sûr, que ce soit dans le textile ou dans d'autres types d'appareils. Dans l'électronique, c'était pareil. Hein, d'appareils qui étaient en bon état, justement. Mais le fait que la seconde vie, c'est un peu l'effet un peu pernicieux de la loi AGEC, hein, aussi, où la seconde vie a pris de l'importance, ce qui est très bien. Hein, donc, allongement des durées de vie, etc., etc. Tout le monde prend conscience de ça. Mais aussi, derrière, effectivement, la qualité des gisements qu'on peut avoir donc a beaucoup baissé, soit dans le textile ou soit chez nous, donc également. Hein, donc, de ce fait-là, donc, le métier est plus, si je puis dire, donc plus difficile de créer de l'emploi, plus difficile, effectivement, de gagner un petit peu de sous donc là-dessus.
Les deux intervenants que vous avez entendus, Jean-Paul Raillard et Elisabeth Foscolo, étaient les invités d'une table ronde organisée par la FRAT, la Fraternité, cette association nantaise qui vient en aide aux personnes vivant dans la précarité. La FRAT, qui entre autres activités, organise la revente de vêtements de seconde main pour contribuer à ses dépenses de fonctionnement. Son président, Luc Pasquier, a donné un exemple concret de la crise provoquée par la profusion des vêtements de mauvaise qualité et la concurrence des sites de revente en ligne. Écoutez.
Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, je parlais que du textile, c'est que Vinted est d'une certaine manière notre premier concurrent. C'est-à-dire que les gens qui avant changeaient de vêtements venaient ici. Et puis, ça nous donnait une qualité de vente après, même avec des prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, on devient une sorte de centre de tri, de dépotoir, de déchetterie. C'est-à-dire que les gens, leurs beaux vêtements, ils les vendent. Et puis, ce qu'ils vont acheter chez Shein ou autre, ils les mettent dans des ballots devant ici. Et nous, on a des bénévoles qui trient et on rejette. Je me tourne vers notre directrice. Je crois qu'on doit acheter plus de 50%. On approche les 60% de dons, hein, de déchets. Voilà. Donc, voilà un peu. Et en fait... ça nous met dans une situation où la mission de la FRAT, qui est l'accueil des gens très précaires, est mise en danger parce que ce gisement d'autofinancement fonctionne moins bien. Et ça a été encore plus vrai, hein, cette année. Donc, à vous écouter, je suis en train de me dire, mais peut-être qu'il faut qu'on arrête ce genre de truc, quoi. Peut-être qu'il faut qu'on ferme, qu'on invente autre chose... qu'on trouve d'autres autofinancements, voilà.
Le métier est plus difficile, disait Jean-Paul Raillard tout à l'heure. Mais l'horizon n'est pas bouché. Quelques perspectives positives mentionnées par Elisabeth Foscolo.
Demain, une collectivité, elle doit 20% de sa commande publique doit être tournée vers le réemploi. Donc demain, ce sont des crèches qui achètent des jouets en réemploi, ce sont des bibliothèques qui achètent leur mobilier de réemploi, etc. Mais avec des dispositions adaptées à ces structures. Et après, il y a une troisième voie qui est celle de l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que là, on n'a parlé que de réemploi solidaire. Nous, dans le réseau, on a des acteurs du réemploi solidaire qui ne font pas que de la vente, mais qui font aussi de la location, du prêt, etc. Je pense notamment à la ressourcerie culturelle à Montaigu, qui a désormais une antenne à Nantes, à la Grenote, qui loue ou met à disposition aux acteurs culturels des éléments de scénographie, du son, de la lumière pour un événement, etc. Et ça, je pense que c'est un sujet intéressant. Il y a certains acteurs qui s'y mettent, par exemple, des acteurs généralistes, type le réservoir, etc., qui se mettent sur de la location de vaisselle pour des mariages, des événements. Et voilà, ça, il y a un vrai aussi changement de paradigme sur entre la notion de propriété et la notion d'usage.
Voilà, on peut imaginer que l'économie sociale et solidaire parviendra à se réinventer et poursuivra sa mission bienveillante et écologiste. C'est tout pour notre émission aujourd'hui. Merci à la FRAT de son accueil et aux participants à cette table ronde. On finit en musique avec Alain Souchon et sa foule sentimentale.
Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nous. Dérision de nous, dérisoire. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment. Sans aucun avantage, on nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Des foules sentimentales, avec soif d'idéal, par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous ravage à la mouquère du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval.